RCF.
Pour les chrétiens, et c'est le fruit de nombreux conciles, le Christ est à la fois vrai homme et vrai Dieu. Il est celui qui est, qui était et qui vient, selon les Écritures. Alors très vite, la façon de représenter Jésus s'est heurtée à une problématique. Comment peindre le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga ? N'est-ce pas trop difficile, trop ambitieux ? Oui, mais si la beauté est un chemin qui mène vers Dieu, pourquoi faudrait-il y renoncer ? Et puisque Dieu s'est fait homme, alors l'incarnation rend possible la peinture. Voilà toute la problématique à laquelle ont réfléchi les chrétiens pendant des siècles et qui vous a, vous aussi, interpellé, Marina Copsidas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chrétienne orthodoxe, passionnée par les Écritures. Vous publiez aux éditions de l'Harmattan un livre intitulé « Le Christ Pantocrator ». Vous êtes, on le disait, de confession orthodoxe. Alors c'est vrai que l'image, les icônes ont un rôle particulièrement important, on y reviendra, mais dans votre parcours, il y a justement une image qui vous a marqué, c'est celle du Christ, un Christ tout-puissant. Racontez-nous.
J'accompagnais mon père à la cathédrale orthodoxe rue Georges Bizet, et j'étais de petite taille et j'étais fascinée par effectivement l'image du Pantocrator qui est dans l'abside, comme dans presque la plupart des églises orthodoxes.
Quand on parle du Christ Pantocrator, c'est certains canons, c'est un Christ qui ressemble à quoi ?
Alors, c'est un Christ qui est tout-puissant, Pantocrator, il faut le dire d'abord, veut dire tout-puissant, et qui soutient le monde, et qui était, comme vous l'avez très bien dit, qui est, qui vient, d'où effectivement cette représentation du Christ Pantocrator assortie des deux lettres, Alpha, le début, Oméga, la fin.
Alors, dans la Bible, il est souvent question de gloire, parce que c'est de cela dont on va parler pendant cette émission. La gloire de Dieu, celle du Christ, la gloire des hommes, on voit bien ce que c'est l'honneur, la renommée, la réussite. Mais quelle est la différence avec la gloire du Christ ?
Pour le Christ, les deux mots qui sont accolés, c'est la gloire et la croix. C'est-à-dire que le Christ, vrai Dieu, vrai homme, vous avez raison de le dire, il faut le redire, vient de façon absolument incroyable, l'incarnation. C'est un mystère qui dépasse l'entendement et évidemment nos petits raisonnements. C'est un mystère. Et donc Dieu se fait homme. Et qu'est-ce qu'ils vont voir d'ailleurs dans la crèche, un bébé, après le Christ, quand il a 12 ans, commence déjà à impressionner les gens par sa prise de parole. Mais il vit simplement. On sait que quand il rencontre la Samaritaine, il a soif. Il nous dit lui-même qu'il n'a aucun lieu où poser sa tête. Il nous appelle à lui ressembler dans l'humilité. Et donc, il y a l'exemple le plus extraordinaire pour moi de l'humilité du Christ. Le mot très fort, c'est un mot grec qui s'appelle kénose. Il se vide de sa divinité pour devenir un homme parmi d'autres. Et donc, un des exemples magnifiques, c'est le lavement des pieds dans Jean 13 qui précède la passion. C'est-à-dire que le Christ s'agenouille devant ses disciples, je dirais, et quelque part plus loin devant l'humanité, pour montrer le rôle du serviteur qu'il est.
Si on était un peu familier, on vous dirait que la gloire du Christ que vous nous décrivez, ça n'a rien de très glorieux.
Je dirais au contraire. C'est que parce qu'il montre par ses gestes qu'il est vrai homme, mais la vraie gloire, c'est la résurrection, bien sûr. C'est la résurrection, là encore, ça échappe au discours rationnel, dont il y avait quand même un prémisse très intéressant, c'est également dans l'évangile de Jean, c'est quand même la résurrection de Lazare. Parce que Lazare, comme on dit, on le met dans les Écritures, le cadavre sentait déjà. C'est pas juste une jeune fille ou un jeune homme qui viennent de perdre la vie, et auquel effectivement les deux résurrections précédentes, mais là c'est vraiment un cadavre véritable. Donc là il y a un signe d'ailleurs, et là, évidemment la résurrection du Christ est quelque chose d'extraordinaire qui va bouleverser littéralement le monde.
Marina Copsidas, regardons du côté des textes, et notamment du texte de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 17. Jésus, dans sa passion, va demander à Dieu de le glorifier. Et ce texte, donc verset 1, « Ainsi parla Jésus, puis il leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Et puis, un petit peu plus loin, « Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. De quelle gloire est-ce qu'il s'agit et de quelle gloire il ne s'agit pas? Comment comprendre la gloire, le fait d'être glorifié dont parle Jésus?
Alors, la gloire qu'il avait, c'est que, j'allais dire, le Christ est au moment de la création. Cette gloire qu'il avait auprès de Dieu à la création du monde, puisqu'il est le Verbe, Dieu dit. Et la gloire surtout, c'est que le Père lui a, en plein accord avec le Père, il va donner sa vie. Il le dit bien dans cette prière chapitre 17 que vous avez tout à fait raison d'évoquer. Il dit bien qu'il offre sa vie. On ne la lui prend pas. Il la donne. Et il faut effectivement ce signe absolument phénoménal qui dépasse l'entendement et qui est donc la résurrection. Et cette résurrection, c'est-à-dire, nous concerne tous, puisqu'il est le signe de la vie éternelle à laquelle, à la suite du Christ, nous sommes appelés.
Cette gloire, elle est donc aussi liée à une action, c'est le fait aussi de triompher de la mort, de triompher du péché, quelque sorte.
Alors, effectivement, par le baptême, le Christ, effectivement, assume... Lui qui est effectivement sans péché assume tous nos péchés et j'allais dire l'obsession de la faute du péché ne sont pas tellement du tout présents au moment de la passion parce qu'il y a à côté du Christ le bon larron, c'est quand même un brigand et qui, ça le mot est très important, se repent et parce qu'il y a ce repentir, le Christ lui dit au soir même tu seras au paradis avec moi. Donc, il y a un dépassement du péché, bien sûr, dans la miséricorde. C'est un mot, pour moi, très important, le mot miséricorde.
Alors, on s'arrête justement sur un autre mot, c'est le mot pantocrator, parce que c'est le titre de votre ouvrage, le Christ pantocrator. Qu'est-ce que c'est cette toute-puissance, ce roi de gloire, qu'on ne connaît pas bien en Occident, qu'on appelle aussi parfois le Christ cosmique? Alors, tout cela, ça peut paraître assez impressionnant, mais il y a aussi cette idée de la gloire lors de la parousie, c'est-à-dire lors de la fin du monde. Ça aussi, c'est une des composantes du Christ pantocrator.
Alors, la toute-puissance, quand même, il faut surtout quand même déjà se référer à l'Ancien Testament. C'est Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Je vais dire, ça échappe totalement à notre entendement, bien sûr. Avant que Dieu crée la terre, il n'y avait rien. Comment on passe de ce rien? Alors il y a quand même, bon, je fais une toute petite parenthèse, la théorie du Big Bang avec Georges Lemaître. Fermons la parenthèse où effectivement on parle de rien aussi. Mais donc, tout l'Ancien Testament est très marqué par la toute-puissance de Dieu. Et dans une centaine, je crois, d'occurrences, plus d'une centaine, le mot pantocrator revient. Alors il est celui qui est dans auquel on attribue le nom de le fameux tétragramme Yahvé, qui est normalement imprononçable, parce que ça dépasse l'homme justement, et c'est juste le grand prêtre qui une fois par an s'autorise à prononcer ce nom qui dépasse donc. Et alors la toute-puissance quand même de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est d'abord dans la création, après c'est l'élection de l'humanité à travers Abraham, qui va effectivement créer toute cette humanité. Et surtout après, il y a également, il ne faut pas oublier, la théophanie. Dieu se manifeste au Sinaï. Et il est dit qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Donc c'est à travers le buisson ardent que effectivement Dieu se manifeste et qu'il s'adresse également à Moïse avec, après, évidemment, cette alliance qu'il donne et évidemment les 10 commandements pour diriger, j'allais dire, le peuple d'Israël.
On comprend, en vous écoutant, que cette toute puissance de Dieu, cette souveraineté, cette royauté, c'est pas la même que celle de Satan, c'est pas la même que celle de Jupiter chez les païens.
Vous avez tout à fait raison, elle est totalement différente, je dirais même opposée. C'est la celle de Satan et celle du monde, c'est la vaine gloire. C'est la vaine gloire, ce qui est d'ailleurs l'accaparation, donc les richesses, l'orgueil, c'est-à-dire chercher la vanité, les compliments, les plaisirs, donc toutes ces choses qui finalement ne mènent à rien, souvent mènent l'humanité en rivalité dangereuse, qui vont jusqu'aux guerres, hélas. Donc il y a, j'allais dire, la gloire de Dieu qui finalement, il faut pas oublier, quand les apôtres demandent à être premiers, le Christ très très radicalement leur rappelle que c'est le premier qui sera le dernier et inversement le dernier qui sera le premier. Donc là, on a une leçon, j'allais dire, assez claire.
Comment comprendre à la fois qu'un Dieu tout-puissant puisse laisser à l'homme toute liberté? C'est cette liberté que nous interrogeons aujourd'hui. Comment c'est possible, ce paradoxe de l'homme créé à l'image d'un Dieu tout-puissant, mais qui justement peut exercer sa liberté?
Alors, je crois que c'est très important dans la Genèse. Il est bien dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, donc une certaine liberté. Et selon sa ressemblance. Et pour moi, la ressemblance, c'est un but à atteindre, puisque Dieu est amour. Donc, l'homme est appelé finalement à suivre Dieu le Père avec, j'allais dire, selon un amour filial, en quelque sorte. Or, qu'est-ce qui arrive? C'est quand même, l'enchaînement est assez extraordinaire. Genèse 1, création du monde. Genèse 2, création de l'homme. Et Genèse 3, l'homme qui effectivement revendique sa liberté, en quelque sorte, qui est une autonomie, et qui, sur le conseil du serpent, qui lui dit qu'ils seront comme des dieux si, effectivement, ils désobéissent à Dieu. Et donc, c'est effectivement ce qu'on a appelé, beaucoup de pères de l'Église, la chute, et que je préfère, saint Paul dit, la transgression.
Quelle différence entre être comme des dieux et être à l'image de Dieu ou être à la ressemblance de Dieu?
À l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, c'est à l'image de Dieu, c'est cet amour filial que fait qu'on va se laisser guider par Dieu. Et rien n'est plus simple quand il va donner les 10 commandements.
Un amour filial, on pourrait vous rétorquer que c'est aussi un amour qui désobéit.
Oui, bien sûr, mais justement, ce sont tous les péchés, les passions. Mais la vraie mission qui nous est donnée, c'est effectivement une vie dans la paix, dans la plénitude, qui est un chemin qui est, malgré les vicissitudes, celui auquel nous sommes appelés à suivre les commandements.
Alors la gloire du Christ, c'est difficile à expliquer, c'est peut-être encore plus difficile à peindre, mais pour saisir la figure du Christ, il faut peut-être revenir à ce qu'on voit de Dieu dans les Écritures. On évoquait à l'instant le Christ, image du Père. Si on regarde dans la Bible comment Dieu se manifeste aux hommes, on peut essayer de comprendre comment Dieu se manifeste dans la Bible.
Ben, d'abord, il se manifeste déjà, ça c'est tout le récit de l'élection des peuples d'Israël, qui étaient donc en esclavage en Égypte, et par l'élection de Moïse, la figure qui est le grand prophète, qui va effectivement suivre l'indication de Dieu et donc se mettre à la tête de ce petit peuple juif pour échapper donc à l'esclavage en Égypte et créer un peuple nouveau, élu, en Israël.
Donc à la fois la parole de Dieu, à la fois son souffle, ça c'est l'Ancien Testament. Si on se dirige vers le Nouveau Testament, on peut comprendre ce défi posé aux hommes, comment dire l'indicible et ce qu'on évoquait en début d'émission, comment peindre le Christ. Quelle est la représentation du Christ dans le Nouveau Testament? Parce que de cette représentation va aussi venir la légitimité à le peindre.
Alors là aussi, peindre c'est quoi? Peindre, c'est peindre le visible. Mais on peut dire qu'il y a quatre représentations. Évidemment, nativité. Le Christ dans la crèche, et Dieu sait que c'est une représentation qui a beaucoup de succès, parlons Noël et sa suite. Après, il y a une représentation, évidemment, le baptême du Christ. Il y a une représentation que j'aime beaucoup, qu'on trouve que dans les icônes, et qui est donc la transfiguration. C'est-à-dire que là, c'est la divinité du Christ qui se révèle à ses trois disciples, avec auprès du Christ Moïse et Élie, qui montrent donc la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et cette lumière qui est l'au-delà, évidemment, est tellement éblouissante que les trois disciples sont bouleversés. Et l'autre représentation ensuite, très forte, c'est évidemment celle de la passion. Donc, évidemment, le Christ en croix. Il y a, alors là, je précise, deux représentations. En Occident, on représente le Christ mort, ce qui a complètement bouleversé Nietzsche, qui ne supportait pas cette vision. C'est les crucifix partout. Et en Orient, on représente le Christ les yeux clos. Pas mort, les yeux clos. Bien sûr, puisqu'il va ressusciter. Et donc, ça, c'est effectivement une représentation très forte, et puisque c'est tout le récit de Pâques et de la résurrection. Alors, il y a aussi cette représentation du Pantocrator, qui est à la fois le Christ vivant, mais vrai Dieu et vrai homme, puisque c'est effectivement l'alpha et l'oméga.
Mais toute la question, c'est est-ce qu'on met l'accent davantage sur la divinité du Christ ou sur son humanité?
Ça sera effectivement tout le débat des iconoclastes contre les iconoclastes. C'est son humanité que l'on représente, et Christ qui s'est rendu visible au monde, mais à travers cette visibilité du Christ vrai homme, transparaît quand même la divinité, bien sûr.
Alors, si on parle de cette représentation du Christ, c'est parce que derrière, il y a aussi un enjeu de conversion, par exemple. Le centurion au pied de la croix voit le Christ, est converti. Est-ce qu'on imagine que toute personne qui peut se trouver face à un tableau peut se trouver convertie par justement ce Christ qui a pris corps, qui a pris chair, qui a habité la faiblesse humaine?
Je pense que on a plus de chances à trouver la conversion quand on contemple la divinité du Christ dans l'icône que quand on contemple un corps mort sur la croix, un cadavre. Ce qui a été effectivement la source de ces écrits tellement violents de Nietzsche qui s'appelle l'Antéchrist et où il a pu conclure que Dieu est mort.
Oui, ça c'est l'orthodoxe donc, qui parle, parce que vous êtes très sensible justement à cette image. Vous pensez que justement il y a quelque chose d'incarné, de puissant dans l'icône, dans le travail
de l'icône? Non, justement l'icône dans sa conception est justement pas tellement dans l'incarnation, mais au contraire dans la traduction à travers une image de la transcendance. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de savoir que c'est un néoplatonicien qui définit la manière de représenter cette transcendance avec effectivement des normes qui sont de faire disparaître tout ce qui est les volumes, les couleurs, les paysages, tout ce qui est proprement création pour se fixer sur une représentation très hiératique. qui un peu déjà hors monde, s'il est presque hors sol, je pourrais dire. Mm-hmm. Et effectivement, c'est cette représentation qui est techniquement celle de l'icône. Quant à son contenu, bien sûr, c'est évidemment les écritures.
Alors justement, la question qui va se poser tout au long des siècles, c'est comment représenter la transcendance. Les Juifs n'avaient pas le même rapport aux images.
Alors, dans le judaïsme, il faut effectivement dire qu'il y a l'interdiction de représenter Dieu.
Pourquoi ?
Ça découle même des 10 commandements. Bon, parce que faire des images de façon idolâtre, c'est complètement contraire, bien sûr, à Dieu et à ses commandements. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans un autre passage, Dieu donne des indications très précises sur la manière dont doit être conçue et réalisée l'arche. Cette arche, évidemment, qui est le symbole de présence symbolique de Dieu, et que dans
à travers les commandements, justement, voilà, gravés sur
Internet. Et donc, Dieu donne des indications précises sur la manière dont va être construite cette arche. Donc, ça veut dire que l'artiste qui veut servir Dieu va donc mettre ses talents, ses savoirs au service de Dieu. Au fond, il y a l'artiste qui se promeut en artiste et qui veut sa vaine gloire et qui son autonomie, là encore, et puis celui qui met son talent au service de Dieu.
Donc au fond, ce que vous interrogez, c'est l'intention de l'artiste.
Alors ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'il y a eu récemment une découverte au XXe siècle dans un lieu qui s'appelle Doura Oropos en Syrie, d'une très vieille synagogue qui avait des fresques. Alors là, on était dans effectivement le culte, puisque ces fresques représentent les prophètes. Donc en réalité, c'est pour appuyer la prière. Ce n'est pas pour distraire, j'allais dire, le fidèle, mais c'est pour, au contraire, l'aider dans sa prière. Ce qui est évidemment le même but pour les chrétiens, bien sûr.
Mais à quel moment on a considéré qu'on ne respectait pas ses commandements? C'est-à-dire à quel moment, au fond, le mouvement iconoclaste a pris une telle ampleur? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on n'a pas accepté dans les représentations du Christ? On est beaucoup plus loin dans le temps.
L'iconoclasme, c'est une décision politique prise à l'initiative d'un empereur qui avait grandi dans les milieux d'Orient où il y avait l'islam, donc déjà un petit peu dans un contexte de rejet de l'image, et qui trouvait que sans doute les monastères étaient beaucoup trop puissants et beaucoup trop riches. Il y avait des monastères où il y avait plus de 1000 moines. Et effectivement, comme ils étaient à la source même de création des icônes, donc c'était effectivement des monastères assez riches et assez puissants. Et donc c'est une manière de casser ce monde. Et donc il interdit la création d'icônes, et il y avait aussi quelques excès, effectivement, d'idolâtrie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce n'est plus l'icône liée au culte, mais c'est, un carré qui effectivement devient carré de bois avec une image qui devient objet de culte.
Marina Copsidas, comment représenter la transcendance? Alors, écrire une icône, est-ce que c'est finalement une peinture comme les autres? Est-ce que c'est réaliser une peinture comme les autres?
Non, l'icône d'abord n'est pas une peinture, parce que ce n'est pas un peintre. L'iconographe est quelqu'un, sauf exception, d'anonyme. Donc il est totalement au service. On dit que normalement, cette icône, il l'a fait dans la prière. Donc l'icône est totalement liée au culte et à la liturgie.
C'est-à-dire, il y a aussi une question de contexte. Les premiers chrétiens, qui étaient donc des martyrs, puisque leur religion était interdite, ont aussi essayé d'être discrets. Est-ce que ça vient de
là? Alors, vous avez raison. Avant d'arriver véritablement à la représentation, on y reviendra, selon des règles de cunisex, les premiers chrétiens, évidemment, voulaient transmettre un message, mais aussi, ils savaient qu'ils étaient en danger de mort, en quelque sorte. Donc, ils vont représenter leur foi à travers des symboles qui sont, j'allais dire, banal d'une certaine façon, c'est-à-dire l'agneau. On sait très bien que le terme d'agneau, c'est dans le prologue de Jean, qui dit qu'il voit le Christ, l'agneau de Dieu. Et également, ils vont représenter le Christ comme le bon berger, Donc ça aussi, c'est une image, j'allais dire, banale. Et ils vont également le représenter avec le symbole du poisson, ictus, Jésus-Christ sauveur.
Quelle a été la part de l'art grec dans la représentation du Christ? Comment est-ce qu'elle s'est construite à partir de ce qui existait, à partir aussi des réalisations, du savoir-faire et des techniques des artistes
alors,
grecs?
C'est exact. Alors, c'est un néoplatonicien Plotin qui va définir les règles de représentation, en quelque sorte, de l'invisible, c'est-à-dire de la transcendance. Et on peut dire que c'est une dématérialisation des formes, de façon très précise, disparition des volumes, des espaces, du poids, des mouvements, des formes, des couleurs. C'est-à-dire que tout ce qui est la peinture de la Renaissance, où on bouge, quelquefois le regard révulsé, des mouvements, des vrais portraits. En réalité, ce sont des vrais portraits. Tous ces aspects-là sont complètement gommés dans l'art de l'icône. Alors là, cette définition de métallisation, je dirais, est le côté technique de l'icône. Et après, on viendra donc aux écritures et surtout à un concile qui s'appelle Quinisexte, en 692, qui fait suite au précédent concile qui avait, où évidemment Orient et Occident étaient parlés d'une même voix pour définir la vraie foi dans le Christ, vrai Dieu et vrai homme, et pour s'attaquer et réagir aux hérésies, notamment une qui était très grave, qui était l'arianisme, qui contestait la divinité du Christ.
Vous avez évoqué assez rapidement le concile de Quinisexte au 7e siècle. De quelle sorte de règles il va s'agir?
Alors justement, vous avez parfaitement raison, il s'agit de règles très précises. Il y en a une, c'est que peut-être par convenance ou spontanément, on avait mis dans les lieux sacrés des croix. Et évidemment, on ne peut pas piétiner la croix. Donc, il est interdit de représenter la croix sur le sol. Et après, très précisément, puisque Dieu s'est manifesté et s'est incarné, il n'y a plus lieu, alors, de reprendre effectivement les représentations paléochrétiennes d'agneaux, de brebis, de bergers, mais le Christ, tel que, j'allais dire, dans son humanité, a été vu par ses contemporains. Et donc, c'est une façon, effectivement, de se référer aux Écritures. Alors, dans ce concile, auquel, hélas, on ne sait pas pourquoi, l'Occident et les papes n'ont pas envoyé de représentants.
Ça veut dire qu'il y a une partie de l'Église qui n'a pas tenu compte de ce concile, dans lesquelles on définissait les règles
exact,
par rapport
exact,
à l'image.
Qui est resté
là, on a un fossé entre l'Occident et l'Orient.
Oui, il y a effectivement, je pourrais dire, une lacune, ou effectivement un fossé, et surtout qu'il y a un des canons qui est très important, et auquel, évidemment, tout l'Orient a totalement respecté, et qui est totalement inconnu de l'Occident, il est interdit de représenter Dieu invisible. Dieu créateur, ben oui, Dieu le Père. Qui a rencontré Dieu le Père? À part le Christ, personne. Donc, quel homme peut dire « je vais décrire Dieu le Père » puisqu'on sait dans effectivement l'Ancien Testament qui a vu l'État dit de voir Dieu sinon de mourir.
Donc si on suit ce concile de Quinisexte, toutes les représentations qui présentent un vieillard pour dire qui est Dieu, ce serait hérétique.
C'est hérétique et je dirais même c'est du folklore.
Pour une orthodoxe.
Pour une orthodoxe. Ça ne correspond à rien. Sur le plan scripturaire, Dieu, c'est la Bible, Ancien, Nouveau Testament. Par rapport à la Bible, ça correspond à rien. Alors, pour moi, j'ai une image absolument un peu, je dirais, de folklore. C'est Dieu le Père, avec sur la tête un pigeon, qui est l'Esprit Saint, et sur les genoux, la croix avec Jésus dessus. C'est pour moi pas réaliste. C'est même hérétique. Par contre, ce qui est très beau, c'est beaucoup l'Occident aussi, les catholiques l'aiment bien, c'est la magnifique Trinité de Roublev, où effectivement c'est symbolique. À travers ces trois anges, c'est le symbole effectivement des trois personnes de la Trinité. Donc si vous voulez, il y a plusieurs façons. Donc une qui effectivement respecte les Écritures et l'autre qui est purement imaginaire. Il y a aussi un autre exemple que je peux donner, qui est purement imaginaire et dans l'Occident, qui représente la résurrection du Christ. C'est-à-dire, on voit un jeune homme, l'air réjoui, qui sort en rigolant d'un sarcophage. Personne n'a vu le Christ en train de ressusciter. Par contre, on a vu le Christ, une fois ressuscité, qui s'est approché effectivement de ses disciples. Ils ont vu le Christ à ce moment-là ressuscité. Et par contre, dans la tradition orthodoxe, il y a une très belle icône qu'on appelle effectivement l'Anastasis, qui est symbolique. Et on voit effectivement le Christ, conformément aux Écritures, qui a vaincu les enfers et qui attire à lui l'humanité à la résurrection, à la vie nouvelle, et donc qui entraîne avec Adam et Ève pour les entraîner à sortir de l'enfer, en piétinant effectivement les portes de l'enfer. L'Anastasis, c'est une très très belle icône de Pâques.
Alors, vous êtes en train d'évoquer finalement ce qu'on pourrait appeler une théologie de l'image.
Tout à fait, c'est exactement ça. Et alors, l'image, quel est son but? Est-ce que c'est de vous distraire? Est-ce que c'est, je vais dire, effectivement, dans des lieux de vie, d'être une décoration, d'être même valoriser votre goût ou votre connaissance des peintres? Il y a une fracture, si vous voulez, en Occident, c'est la Renaissance. Et c'est à ce moment-là que les peintres ont libre cours à leur imagination, à leur convenance, et les Écritures ne sont très loin. Bon, par exemple, toutes les vierges de la Renaissance sont des ravissantes jeunes femmes, avec un bébé dans les bras, avec un foulard bleu sur la tête.
Ça vous gêne, ça, Marina Copsidazou, qui est orthodoxe?
Non, ça me gêne pas. Mais je crois, pour les petits écoliers qui passent devant, ils risquent pas d'être interpellés. Ils voient une jeune femme avec un bébé, hein, ils risquent pas d'être interpellés.
Vous diriez qu'il manque à ces peintures ce qui fait le mystère du Christ?
Oui, bien sûr. Mais oui, la révélation de l'incarnation. J'allais dire, et surtout, il faut pas oublier que Marie, mère de Dieu, celle qu'on appelle, dans la tradition orientale, la Théotokos, la mère de Dieu. Et donc, la relation, effectivement, la représentation de Marie est très conventionnelle dans l'orthodoxie. Effectivement, c'est un modèle qui a des sources, de la tradition dit, d'un portrait que Saint Luc aurait fait de la Vierge. C'est la source. Et donc, on voit effectivement la Vierge, qui est représentée toujours, évidemment, de face, avec effectivement, ce petit enfant dans les bras. Et alors, il y a la Vierge de tendresse qui pose sa joue sur la joue du Christ. Et il y a la Vierge aussi qui montre à l'humanité le Christ comme, effectivement, le Sauveur.
Et vous semblez dire qu'on ne peut pas représenter la Vierge comme étant une femme commune. Comme vous le disiez, avec son voile sur la tête, il doit émaner d'elle quelque chose de différent parce qu'elle est Théotokos, parce qu'elle est la mère de Dieu.
Eh oui, j'allais dire, effectivement.
Mais qu'est-ce que vous faites de l'idée que justement chacun est interpellé pour dire aussi son oui à Dieu?
Il faut que Dieu à ce moment-là s'adresse à lui. J'allais dire au croyant ou à celui qui cherche, qui regarde. Et donc, il faut que quelque chose interpelle. En réalité, cette représentation ne peut pas être dans la, quelle que soit sa qualité picturale, ne peut pas être dans la banalité. Elle est forcément, vous tout à l'heure, avant vous l'évoquiez, quelque chose de la transcendance. Comme on l'a vu, donc. Et il y a alors un philosophe catholique, que j'ai eu d'ailleurs comme professeur, Philippe Serres, qui parle bien d'un art de délectation et d'un art de prière, qui incite à la prière.
Et on s'intéresse à la représentation du Christ dans la peinture et notamment à celle qu'on appelle le Christ Pantocrator, c'est-à-dire le Christ souverain, maître de tout. Christ Pantocrator fréquent dans l'art byzantin, Christ généralement représenté assis sur un trône de gloire tenant le livre des Saintes Écritures dans la main gauche et esquissant de la main droite un geste de bénédiction. Et cette représentation, c'est ce qui fait le cœur de votre ouvrage, Marina Copsidas. Vous consacrez un livre intitulé « Le Christ Pantocrator » aux éditions de l'Harmattan. Comment est-ce que la représentation du Christ a changé à travers les siècles? On peut essayer de dresser une sorte de chronologie à travers différents exemples, je vous propose. On part faire un tour du monde pour voir toutes les réalisations de ces représentations du Christ, Christ Tout-Puissant. Alors, direction les fresques des catacombes.
Oui, alors effectivement, pour étayer mon propos dans ce livre, j'ai proposé 8 représentations du Christ Pantocrator. Voilà, il y en a 8.
On trouve des illustrations.
Voilà, donc la première, effectivement, c'est celle de ce que j'aime beaucoup parce que je la trouve d'une certaine façon très moderne. Dans la simplicité du trait, les deux couleurs qui se complètent, le bleu du ciel et le brun du sang du Christ de la Passion. Et cette représentation est la première qu'on connaisse du Christ Pantocrator et elle est dans une catacombe qui s'appelle la catacombe de Commodille.
Et elle date de quand alors?
Elle date du 5e siècle. Et ce qui est important, c'est de voir que le Pantocrator, dans sa définition, est plein et entière. Le bleu du ciel, qui est repris avec les étoiles. Effectivement, des étoiles qui sont donc à 8 branches, qui sont formées de la croix et du signe Hi, Christos, en grec. Et donc, c'est une très belle représentation. D'abord parce que elle est dans les premiers siècles, évidemment, où le christianisme se développe et affirme également sa foi au travers des conciles. Premier concile Nicée 325, dont on va fêter les 1700 ans l'année prochaine. Œcuménique, bien sûr, puisque c'est Orient et Occident qui, d'une seule voix, proclament leur foi dans le Christ vrai Dieu et vrai homme. Et donc, c'est cette représentation symbolique qui se retrouve à Rome.
Ensuite. Ça, c'est la toute première.
C'est la toute première. Là, ensuite, celle que j'ai représentée, qui est très importante, c'est une icône qui est au monastère Sainte-Catherine, qui est celle qui est représentée le plus souvent.
Au Mont Sinaï.
Qui est donc, je dirais, l'image type de l'icône du Christ. Pourquoi? Parce qu'elle est représentée, elle est supposée être un portrait du Christ qui aurait été fait à travers un miracle, qui est un linge qu'on appelle le mandilion, que le Christ aurait appliqué sur son visage quand quelqu'un voulait faire son portrait. Et ce linge, ce mandilion, se serait trouvé à Édesse, entre les mains d'un roi, et il aurait été racheté par l'empereur byzantin et ramené triomphalement à Constantinople.
Alors c'est ce qu'on appelle le mandilion, c'est ce qu'on appelle une icône non faite de main d'homme. Donc c'est
exactement
vraiment le visage,
voilà,
du Christ,
c'est ça,
imprimé.
C'est exactement, miraculeuse finalement. Alors on a une tradition effectivement en Occident du voile de Véronique. Exactement.
Quelle différence avec le voile de Véronique, par exemple, justement?
Alors, le voile de Véronique, je crois que c'est au moment de la Passion, quand le Christ est sur le chemin du Golgotha, et qu'effectivement, on lui tend ce voile, et donc là, les deux traditions se recoupent et se complètent, en quelque sorte. Et donc, cette voile, qui donc est en Orient, est récupérée, et va servir, donc, de modèle pour cette fameuse icône du Mont Sinaï. Alors, elle est quand même, il faut savoir que le monastère de Sainte-Catherine est quand même exceptionnel parce qu'il date du 5e siècle. Ce qui m'a frappé quand je l'ai visité, c'est qu'à côté de l'icône du Christ, se trouve celle de Saint-Pierre. À côté. Et le caractère particulier, c'est que ce monastère n'a subi aucune invasion. Aucune destruction. Il est tel qu'à l'origine. Et il y a effectivement alors une très belle fresque de la Transfiguration dans l'église. Et ce modèle du Christ Pantocrator va inspirer après les très belles représentations byzantines que l'on trouve à Sainte-Sophie et également qu'on va retrouver aussi dans ces merveilleuses et magnifiques représentations en Sicile, qui sont Monréal, Cefalù et Palerme. Mmh. Et j'allais dire, tout ça, c'est un ensemble absolument grandiose du Pantocrator.
Tout cela à partir de ce qu'on appelle le mandylion, donc qui signifie en grec le mouchoir, puisque oui. On le disait, hein, c'est une image, on a aussi appelé ça l'image d'Édesse, qui a pris la marque du visage du Christ, la sainte face, en fait, tout cela est lié. Alors, le monde orthodoxe considère que c'est la première icône. Il y en a eu d'autres par la suite, vous le disiez, ça a permis de créer une sorte de modèle, en quelque sorte, dupliqué par les artistes. Si on s'arrête sur les mosaïques de Ravenne, au nord de l'Italie, quelle différence ?
Alors, les mosaïques de Ravenne sont, comment dirais-je, l'élaboration d'un langage, parce qu'au début, on ne sait pas trop, donc on représente la croix glorieuse. Et ce qui est très important, il y a la basilique de Sainte Vitale, par exemple, qui est tout à fait, que je représente d'ailleurs, qui est effectivement ce propos emblématique. Il y avait aussi Galla Bassida, effectivement, et aussi un monument à Ravenne où on représente le Christ imberbe comme un jeune homme. Et effectivement, la passion va nous montrer effectivement une autre dimension du Christ que simplement ce jeune homme assis sur le monde.
Alors là, on est dans le premier millénaire et à ce moment-là, il n'y a pas encore cette opposition dont on parlait précédemment entre Orient et Occident.
Oui, parce que là aussi, justement, c'est une des représentations que j'ai voulu donner dans mon ouvrage, c'est celle du portail de Chartres, c'est-à-dire le Christ en gloire.
La cathédrale de Chartres.
Voilà, la cathédrale de Chartres. Le Christ en gloire est une autre expression artistique, mais sur le plan scripturaire, elle est la même que le Christ Pantocrator. Là, c'est le Christ en gloire, effectivement, qui est dans la mandorle et qui est là pour bénir l'humanité. Donc, c'est effectivement une représentation avec le Christ incarné et transcendant.
Donc il y a un véritable enjeu, peut-être qu'on n'a pas bien mesuré, sur les images, justement, sur la représentation du Christ.
Oui, alors là, je voudrais citer un de mes professeurs de l'Institut catholique, professeur de philosophie, qui s'appelle Philippe Serres, catholique, et il écrit « La corruption de l'image est un manquement à la foi. Il est nécessaire de reconnaître la faute d'une partie de la tradition apostolique dans le laxisme iconique, laxisme qui nous a certainement conduit à une importante dégradation de la foi. » Il ajoute, il y a une conversion par l'image comme il y a une perversion qui découle de l'image.
Pour ceux qui l'observent, pour ceux qui la vénèrent, pour ceux qui adorent ces images, là, il y a une différence entre le monde orthodoxe et le monde catholique.
Bien sûr, parce que pour le monde orthodoxe, l'icône est indissociable de la liturgie. Vous ne pouvez pas avoir une liturgie orthodoxe sans icône. Ça n'existe pas.
Pour quelle raison ?
Parce que, j'allais dire, c'est pas, on n'est pas justement alors dans le monde du judaïsme où il n'y a pas de représentation, la représentation est normalement interdite, ou dans l'islam, nous sommes dans l'incarnation.
C'est ça qui légitime que évidemment. Il y a une représentation possible et même souhaitable.
Alors, dans la liturgie, quand il n'y a pas une fête particulière qu'on va célébrer avec l'icône de la fête, par exemple le baptême du Christ, dans les autres jours, il y a toujours l'icône, évidemment, du Christ, évidemment l'icône de la Vierge Marie et l'icône de l'Anastasis.
Mais qu'est-ce qu'on vénère à travers ces icônes ? On se doute bien que c'est pas l'objet qu'on vénère, mais comment ça se passe dans le cœur du croyant ? Vous êtes vous-même orthodoxe, donc qu'est-ce qui se passe dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre regard, quand vous êtes proche et que vous embrassez même une icône ?
C'est une présence. C'est une présence. Alors j'ai oublié quand même aussi, excusez-moi, de préciser, comme c'est important, il y a aussi toutes les icônes des saints. Et qu'on vénère, bien sûr. Donc, les saints que l'on vénère sont représentés selon la tradition, selon effectivement leur parcours de vie, mais toujours effectivement avec aussi les mêmes règles techniques de dématérialiser en quelque sorte et montrer effectivement qu'ils sont au-delà de plus simples personnes du quotidien.
La place du regard dans ces icônes, à la fois le regard peint, le regard écrit et le regard du croyant.
Alors, certains théologiens orthodoxes ont dit que ce n'est pas nous qui regardons l'icône, mais c'est l'icône qui nous regarde. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a comme une, il y aurait un dialogue où je dirais que l'icône nous invite à la prière.
Ce n'est pas de la magie.
Ah, c'est surtout pas de la magie, c'est de l'invitation. Et c'est pour ça d'ailleurs que je parle effectivement de la présence indiscutable et de l'icône pour la liturgie, mais également, bon, ben, les croyants orthodoxes ont dans leur chez eux un petit coin avec l'icône pour prier.
On s'intéresse à la représentation du Christ dans la peinture, à cette approche différente entre Occident et Orient, de culture, de l'image, à partir du premier millénaire surtout. Marina Kopsidas, vous êtes chrétienne orthodoxe. Comment est-ce que vous qualifieriez cette différence, cette approche qui n'a rien à voir entre l'Occident et l'Orient, qui s'est creusée finalement alors qu'elle était assez identique dans les premières années?
Tout à fait, le premier millénaire, n'ayons pas peur de dire le premier millénaire. Et d'ailleurs, par exemple, c'est l'époque quand même des cathédrales. Donc il y a la puissance spirituelle qui l'emporte sur le temporel. Et je pourrais dire qu'effectivement, on pourrait, je suis pas du tout compétente, mais dire qu'est-ce que c'est que les cathédrales et Sainte-Sophie à Constantinople, par exemple. C'est la même puissance et besoin de spiritualité et d'accueil de la transcendance qui fait que les hommes, je veux dire, se dépassent eux-mêmes quand ils arrivent à ce niveau artistique.
Durant le premier millénaire, les traditions sont proches, mais depuis la fin du premier millénaire, justement, la tradition d'Orient, la tradition d'Occident vont se creuser, les différences vont se creuser, notamment dans l'interprétation des images. Et ça tient aussi à la gloire et à la croix. Comment vous expliquez ça?
Il y a eu effectivement le très grave période d'iconoclasme, où effectivement, par politique et par tendance de négation de l'image de la part de l'empereur byzantin qui a été grandi dans un contexte proche de l'islam, donc pour affirmer sa puissance contre les monastères et l'église, alors il se dit quand même « égaux aux apôtres ». C'est quand même très modeste hein, quand un empereur commence à dire « égaux ». Égal à l'apôtre.
On est à quel siècle?
Et donc là, on est au 8e siècle. Et il fait détruire une icône emblématique, ce qui provoque évidemment tout de suite une réaction très forte de la population. Et là, le patriarche, évidemment, défend la cause de l'icône et veut interdire cette destruction systématique des icônes qui va justement se faire à Constantinople à l'époque. Et c'est pour ça que les icônes qui sont antérieures au monastère Sainte-Catherine sont très précieuses. Parce que celles qui étaient à Constantinople antérieures ont été détruites.
Mais c'est d'une violence inouïe.
Tout à fait.
Pour le peuple croyant.
Absolument inouïe. Alors, il faut dire que là, ce qui est très intéressant, c'est que le pape soutient le patriarche de Constantinople pour la défense des icônes. Et donc là, l'Orient et Occident parlent d'une seule voix pour la défense de l'icône. Pour aller un petit peu abréger, on sait que donc il y a le concile œcuménique de Nicée II, qu'on appelle Nicée II. Les autres avaient pour objectif de défendre la vraie foi contre différentes hérésies. La première hérésie, c'est donc l'arianisme, qui remet en cause la divinité du Christ. Voilà. Et ça s'appelle l'adoptionnisme parce que le Christ n'est pas fils de Dieu, mais lors de son baptême, adopté par Dieu. Donc, pour la foi chrétienne, cette position n'est pas acceptable, puisque si le Christ n'est pas vrai Dieu, sa mort et résurrection ne peut pas évidemment concevoir avec la résurrection voilà, du monde.
Ça, c'est l'arianisme.
Voilà. Ce qui est très important dans le Concile de Nicée 1, c'est de dire et d'affirmer, d'une seule voix bien sûr, que le Christ est homoousios, de même nature que le Père. Voilà, de même nature que le Père. Le Père est en moi, moi je suis le Père, et je vais dire c'est tout l'évangile de Jean bien sûr.
Et au fond, toutes ces conclusions des différents conciles vont avoir une importance sur l'art de représenter le Christ.
Oui, alors, les iconoclastes vont effectivement rejoindre l'arianisme pour dire qu'effectivement, il y a deux natures et que, bon, on ne peut pas, etc. Bon, par contre, les iconodules, ceux qui défendent évidemment l'icône, disent que c'est le Christ vrai Dieu et vrai homme, tel que l'ont pu rencontrer, et d'abord les apôtres et tous ses contemporains, qui est légitime de représenter. Il y a une légitimité par l'incarnation. Mmh. Donc, ce n'est pas l'invisible qu'on représente, on présente à travers la figure F majuscule du Christ.
Alors, on a, si on vous entend bien, un millénaire de ce qu'on pourrait appeler de symphonie avec sept conciles œcuméniques, oui. Et puis soudain la rupture.
Alors, la rupture, elle est politique parce que Charlemagne considère qu'il faut un seul maître du monde, qui serait lui, bien sûr, et que la présence de l'empereur à Byzance le gêne. Donc, il voudrait épouser l'impératrice Irène qui le rejette. Et qu'est-ce qu'il imagine ? C'est que le concile Nicée II, sur lequel évidemment les occidentaux et orientaux étaient parfaitement unanimes, il y a une erreur de traduction, parce que effectivement on disqualifie l'adoration des icônes, parce que l'icône c'est quand même un objet, certes symbolique, mais c'est un objet. L'adoration ne va que vers Dieu, et ce qui est pour l'icône c'est la vénération. Et Charlemagne va se servir d'une erreur de traduction entre vénération et adoration, ou la version latine met adoration des icônes, pour dire on conteste les conclusions de Nicée II, et donc c'est un synode qui, à son initiative, va condamner les conclusions de ce concile œcuménique de Nicée II.
Donc Charlemagne, pouvoir temporel, remet en cause après, conclusions d'un concile.
Et après, c'est lui qui aussi, de façon, je dirais, un peu diabolique, va utiliser le filioque pour arriver à la tragique rupture entre Orient et Occident qui va se faire en 1053 et en 1204.
Le filioque, donc, c'est
la deuxième arme de destruction massive imaginé par Charlemagne.
Oui, mais le filioque, pour le définir, Père, Fils, Saint-Esprit.
Alors, le filioque, c'est l'adjonction de « et » sur le credo. On a pu dire tout à l'heure un mot sur le credo, c'est-à-dire que le credo est le symbole de la vraie foi, d'une seule voix, fruit effectivement des conciles essentiellement nicéens et celui juste après de Constantinople. Et d'ailleurs, ça s'appelle le credo de Nicée-Constantinople. Et donc, on dit que l'Esprit procède du Père, comme dans l'évangile de Jean. On ne peut pas modifier les évangiles. Et c'est bon, des synodes locaux qui prennent l'initiative de rajouter le coué et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Et l'erreur, c'est qu'il aurait fallu faire un concile et il aurait fallu mettre, il ne procède pas, puisque évidemment les évangiles ne disent pas, mais il manifeste. Et en fait, il y avait une clé très facile. Et je crois que même un des papes des premiers temps avait trouvé cette formulation. C'est-à-dire qu'effectivement, il procède du Père, mais on peut dire que finalement, puisqu'il envoie l'Esprit, il manifeste Christ.
Donc schisme réel qui va
tragique avec la quatrième croisade qui détruit Constantinople. qui détruit Constantinople. Il y a des récits sur le sang qui coule partout dans les rues. Et alors, tous les trésors, effectivement, justement, on parlait une autre fois du Mandylion, le Saint-Suaire et tous ces objets magnifiques du monde byzantin sont volés et vont se retrouver en grande partie, d'ailleurs, dans le trésor de Saint-Marc de Venise et le Saint-Suaire à Turin, etc., etc. Et la couronne d'épines rachetée par Saint-Louis va se retrouver à la cathédrale de Paris.
Qu'est-ce qu'on peut dire des écoles d'Alexandrie et des écoles d'Antioche ?
Alors, ces écoles sont en fait des écoles de pensée théologique qui se développent à partir d'un certain contexte. Alexandrie est très marquée par la personne de ce grand père de l'Église qui s'appelle Origène, très marquée par le platonisme et par le monde des idées, et qui va faire, quelquefois, des interprétations un peu trop imaginaires des Écritures, alors que l'école d'Antioche, là où, pour la première fois, on a prononcé le mot chrétien, sont plus marquées par Aristote, et donc plus orientées vers l'humanité du Christ. Origène, plus vers, j'allais dire, la partie de l'invisible.
Donc ça, c'est l'école d'Alexandrie.
Voilà, d'Alexandrie. Et l'école d'Antioche, c'est effectivement marqué par l'humanité. Et donc, dans les différents mouvements hérétiques, on s'appuiera tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre. Voilà.
Marina Copsidas, pour nos auditeurs qui écoutent depuis le début cette émission et qui auraient envie de découvrir une représentation du Christ Pantocrator, sans aller jusqu'en Italie, sans aller jusqu'en Grèce, où est-ce que vous les invitez à se rendre ?
Je les invite à se rendre dans deux églises catholiques que j'ai découvertes, à ma grande joie, où il y a un Christ Pantocrator. La première, c'est à Sanary, l'église Saint-Nazaire, où il y a un magnifique Christ Pantocrator et toute l'église est fresquée selon la tradition effectivement iconographique de la tradition de l'Orient. Et donc, c'était en plus assez étonnant, c'est à l'initiative du maire qui avait une église qui était à l'intérieur avec des murs blancs et qui a eu l'idée de faire un concours pour décorer cette église. Et c'est un iconographe orthodoxe qui a remporté l'adhésion. La deuxième église catholique, c'est l'église d'Auteuil, dans le 16e arrondissement, qui avait été complètement rénovée, et ils ont mis un grand pantocrator. C'est peut-être, alors, comme image de l'œcuménisme, la plus parfaite que je puisse proposer.
Merci Marina Copsidas, et on sait que vous y êtes sensible parce que vous êtes vous-même chrétienne orthodoxe, passionnée par les Écritures. Vous publiez aux éditions de l'Harmattan un livre intitulé « Le Christ Pantocrator ». Merci d'avoir été avec nous toute cette semaine, et merci à Pierre-Henri Paget à la réalisation de cette émission.